Sur l'antenne de RCV 99, nous recevons DJ Transgression. Nous sommes toujours ici au Garage Lillois qui se trouve boulevard Carnot pour ce Vénus Tattoo Convention numéro
3
déjà.
Voilà, vous avez suivi. Plus que moi en tout cas, parce que j'ai réussi quand même à fauter tout à l'heure. Et donc nous recevons DJ Transgression qui va pouvoir nous... ça va ?
Ça
se passe
va,
bien, ouais.
Bien.
Tu t'es posé.
On est bien. On est bien accueillis, bien reçus. Des canapes confortables, un petit café. On est parti.
Alors t'es un habitué à la fois peut-être aux deux celui-ci, mais aussi de RCV 99. Nous en parlions justement hors antenne, où tu as déjà traîné tes guêtres pour présenter tes productions et tes dates.
C'est ça, c'était sous un autre projet, un projet qui s'appelait Instinct Records, donc de la techno-industrielle il y a ça 10 ans, je crois. Le label a 11 ans ou 12 ans, donc oui, effectivement, c'était au début. Donc c'était vraiment il y a 10 ans. Et oui, du coup, on parlait des soirées qu'on organisait, on parlait des différents projets qu'on avait. On expliquait un peu notre vision artistique parce que un label c'est toujours un peu compliqué à gérer et puis on était aussi un peu jeunes, donc c'était bien d'avoir un écosystème pour voir comment faisaient les autres, est-ce qu'on faisait bien, est-ce qu'on faisait mal, est-ce qu'on faisait des choses différemment ou pas quoi. Voilà, c'était toujours très intéressant de passer avec vous quoi.
Ouais, voilà, ça fait partie des carrefours où on se retrouve entre artistes, producteurs et puis médias, voilà.
Exactement, exactement.
Ravi de te rencontrer.
Plaisir partagé.
Aujourd'hui, du coup, on te retrouve sous le nom de Transgression.
Oui, c'est moi.
Pourquoi ce nom ?
Pourquoi ce nom Transgression ? Parce que, en fait, quand j'ai imaginé ce projet, je me cherchais un nom et j'avais beau un peu retourner tous les trucs dans ma tête. Et puis un jour, c'est ma mère qui m'a dit : mais Mathias, en fait, la transgression, c'est toi. T'as un pied dedans, un pied dehors. Tu fais jamais rien comme les autres et de toute façon, ça te saoule de faire comme les autres. Donc. En fait, ça te va bien, quoi.
Et t'as dit merci, maman.
J'ai dit merci, maman.
C'est grâce à maman, le nom.
Merci, maman. C'est vrai. Enfin, en fait, j'avais déjà l'idée de se dire, vraiment ce modèle de un pied dedans, un pied dehors, c'est t'es dans le truc, mais à la fois t'es pas dans le truc, mais tu fais un peu rien comme les autres. Et puis de toute façon, t'aimes pas ça. Donc, je cherchais quelque chose qui représentait ça. Et puis ma mère m'a dit, c'est simple, quoi. Et effectivement, ça me va bien. Et depuis le temps, on m'appelle très rarement. Enfin, on m'appelle de moins en moins par mon prénom. Et donc, du coup, c'est peut-être en fait le nom me colle à la peau quand même. Donc, du coup, je l'ai gardé. Voilà, simplement.
Très bien. Et du coup, ton projet, c'est un mélange un peu d'électroclash, de BM, de techno.
C'est ça.
Comment tu décrirais un peu tes productions ?
Comment je décris une production, je dirais que c'est intense, c'est très intense, parfois même trop, c'est ce qui me porte préjudice, mais donc intense, tranchante, il y a de la profondeur aussi, mais en fait au-delà de tout ça, j'aime bien me dire qu'il y a du sens en fait, enfin je fais jamais rien, enfin je fais jamais un son pour juste faire un son quoi, ça m'intéresse pas de juste faire une prod pour faire une prod. J'aime bien quand ça raconte une histoire, j'aime bien quand ça part d'un point A pour aller à un point Z même en fait, où il y a un grand voyage entre les deux. Voilà, c'est pour ça qu'en fait c'est quand même très intense et que c'est quand même assez chargé. Mais dans l'ensemble, si on devait retenir quelques termes importants, je dirais tranchante, froide et profonde.
Ouais, donc il y a une vraie narration dans la construction de tes productions et dans les sons que tu fais, quoi.
C'est ce que j'essaie de faire. Après, j'y arrive pas toujours, mais dans l'ensemble, c'est ce que j'essaie de faire, quoi.
Permets-moi de te demander si t'es d'abord un producteur, tu te définis toi-même d'abord comme un producteur ou un DJ qui s'intéresse à la production ?
Non, je suis...
Ou l'inverse ?
De formation, je suis plus un DJ qui est devenu producteur. Ça fait... J'ai 10 ans d'ancienneté sur le mix, même un peu plus, je pense 13 ou 14 ans, je crois. 3 ans avant Instinct, donc 15 ans maintenant. 15 ans, la prod, sous mon ancien projet, je faisais déjà aussi un peu de prod, mais c'était vraiment les débuts d'Ableton, enfin mes débuts sur Ableton en tout cas, donc c'était pas glorieux, ça c'est sûr. Et sous le projet Transgression, on va dire que ça fait 3 ans que je suis vraiment prod. Où en fait la fin de l'apprentissage des outils de production. Je l'ai vécu avec la fin de l'ancien projet. Et début de transgression, c'est vraiment il y a 4 ans. Non, il y a 5 ans. Ouais, c'est ça, il y a 5 ans plus ou moins. Et du coup, la fin de l'apprentissage d'Ableton et des processus de prod, etc. Enfin, après, on apprend toujours, mais la fin de tout ça et le fait de savoir faire ce que je sais faire maintenant, c'était il y a plus ou moins 3 ans. Donc, depuis 3 ans, je suis vraiment dans la prod, quoi. Voilà.
Et tu t'intéresses à jouer des live acts ?
Exactement.
Avec les machines ? Ouais.
Exactement.
C'est quand même le top du top pour pouvoir justement vivre la musique en live telle qu'elle se produit, s'élabore.
Complètement. Ouais. Alors, c'est un très long travail. Je suis dessus, là. Je l'ai terminé la semaine dernière. Donc, il existe. Le projet existe. Ça y est. Maintenant, il va falloir le faire tourner. C'est une autre dimension. Mais oui, en fait, je m'y suis intéressé parce que... en fait, la raison aussi pour laquelle je me suis un peu mis à la prod, c'est que très vite, j'ai trouvé un peu moins de sons qui m'intéressaient dans ce qui sortait. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, si je veux continuer déjà à mixer, il me faut mes propres sons. En plus de ça, si je veux me faire connaître, bah, il me faut mes propres sons. Mais au-delà de tout ça, la raison primaire, c'est que bah, y a rien qui me convient. Donc je vais les faire moi-même, en fait. Mais c'est aussi parce que je suis quand même très perfectionniste et du coup je voulais des choses qui me ressemblent à 100%. Donc j'ai produit. Et maintenant que j'ai assez de prod, bah, j'ai un live qui existe. Qui va être bien ou pas bien, je sais pas. Il faut que je le fasse tourner, il faut que je le confronte pour ça.
Voilà. T'as déjà en tête un horizon, ça sera pour la fin d'année ou cet été déjà ?
Alors en fait, il y a déjà un premier live qui a été fait il y a un an. C'était en collaboration avec l'île 3000 pour l'expo Electrorama. C'était le vernissage. C'était le vernissage ? Non, c'était pas le vernissage. Donc Electrorama, je sais pas si vous y êtes allé un peu. Donc l'exposition photo avec...
C'était à l'Espace Le Carré dans le Vieux-Lille.
Exactement.
Merci pour la précision, Flavie.
Espace Le Carré dans le Vieux-Lille. Donc voilà, première du live. Il y a eu des choses bien, des choses moins bien. Après, j'ai décidé d'abandonner. Enfin, j'ai décidé de ne pas le refaire parce que je me suis dit, bon, on va travailler sur d'autres projets. Et là, maintenant, je me dis, bah, j'ai quand même envie. Donc du coup, je l'ai refait. Et ça m'a pris 3 mois. 3 mois quasiment à temps plein. Et là, maintenant, ça y est, il est fait. Donc peut-être que je vais venir le faire tourner ici à Garage, on sait pas. S'il y a les bookers dans la salle, est-ce qu'ils sont là?
Les oreilles des bookers.
Il y a des oreilles, tout le monde nous entend, ne t'en fais pas.
Magnifique.
Quelle est la différence du coup entre la production chez toi et le live devant un public? Quelles sont les difficultés ou enfin voilà les différences entre ces deux aspects de ton travail?
Et bah la production en fait on peut tout refaire. Donc en soi même quand t'enregistres à synthé en audio et que bah après t'as plus le preset, tu peux quand même le remodifier derrière, enfin tu peux le bidouiller, etc. Donc tu peux repasser dessus. Et si y a un truc qui te convient pas, bah tu peux le refaire. Le live, l'ennui c'est que bah tu peux pas revenir en arrière quoi.
T'as pas le droit à l'erreur.
Bah ouais, déjà t'as pas le droit à l'erreur. Bon après même si tu te plantes, il y a quand même rarement de gens qui font la différence, enfin pas qui font la différence mais qui entendent vraiment que tu t'es planté, parce que de toute façon c'est fait de telle sorte à ce que bah, les gens n'entendent pas que tu te plantes quoi. Il y a que toi qui l'entends, mais sérieux c'est encore plus dangereux parce que du coup tu te dis t'es foiré, ça marche pas. Et moi je sais que j'ai tendance à faire des têtes où du coup ça se voit. Et du coup quand les gens voient ça ils se disent ah, y a un truc qui va pas. Ils cherchent quoi, mais il y a un truc qui va pas. Mais du coup, ils l'entendent pas. Mais toi, de toi-même, tu te dis, c'est relou quoi.
Oui, forcément, tu sais que c'est pas ce que tu voulais faire.
Bah oui.
Et là, mais du coup, le projet à l'avenir, c'est vraiment d'être que sur du live ou tu continues à faire des sets hybrides?
Non, je fais. Je garde toujours les DJ sets. Le live, en fait, c'est ce que je vais essayer de faire tourner dans des lieux un peu plus gros. Donc là, j'ai un nouvel entourage pro. Avec qui j'ai signé la semaine dernière, qui va prendre en charge ce projet-là, et du coup qui va le faire tourner. Et on a défini un peu la strat par rapport à ça, c'est de prendre des lieux type un peu comme ici, ou comme le Rock Reel comme j'étais hier, bon, des lieux comme ça, comme Sinso par exemple, des salles un peu type concert qui font de la soirée, qui sont adaptées à ça, pour, enfin, qui reçoivent entre 5 et 600 personnes quoi. Enfin, 500 personnes minimum, parce qu'en fait c'est quand même une grosse logistique, c'est une grosse pression aussi. Comparé au DJ set, c'est une beaucoup plus grosse pression, parce que bah déjà t'as le matos, c'est beaucoup plus compliqué à manier que des platines, il y a plein d'aléas qui peuvent se passer, il y a aussi beaucoup plus d'investissements en termes financiers, en termes de matos, donc il faut entre guillemets un peu le rentabiliser, et il faut faire en sorte que ça ait de l'impact. Parce que si tu veux, c'est des prestations qui sont un peu plus fatigantes qu'un DJ set, je trouve, et où tu prends plus de risques. Donc l'idée, c'est pas non plus de le faire tourner dans le bar du coin, quoi. C'est que ça reste un moment exceptionnel, entre guillemets, où les gens, quand ils voient ça, enfin quand c'est annoncé sur les réseaux, ils se disent « Putain, Transgression en live, bah, je l'ai vu en DJ set la dernière fois, j'ai envie de le voir en live quand même, donc vas-y, on va y aller. » Et que ce soit pas un truc qui arrive tous les 4 matins, quoi.
Je me permets de te demander, tu as des nouvelles productions et tu avais même amené aussi du
ça.
Son avec toi.
Ouais.
Alors, ça va faire partie des choses qu'on va permettre d'entendre en fait aux auditeurs de RCV 99. Si tu devais choisir un des titres que tu as envie de mettre en avant dans ce que tu as édité de nouveau, qui est même pas sorti, parce que tu me disais que c'était même pas encore sorti.
Oui. Alors, dans ce qui n'est pas encore sorti, il y a un titre que j'adore qui s'appelle Syncopation, qui devrait sortir je sais pas quand.
Merci.
Voilà, bah, en fait, c'est tout un EP, et j'en ai un qui est. Enfin, l'EP est terminé, si tu veux, mais il y a un titre qui est très bien. Les deux autres sont bien aussi quand même, mais pourraient être mieux. Et en fait, c'est là de, c'est l'éternelle question de à quel moment tu décides que s'arrête la prod, quoi. Mmh. Donc, si je m'écoutais, en fait, je pourrais passer encore un an dessus.
Ça peut toujours être une histoire sans fin, oui.
C'est toujours une histoire sans fin. C'est là que c'est un peu embêtant, parce qu'au bout d'un moment, faut s'arrêter, quoi. Faut s'arrêter. Donc ouais, ce titre-là, Syncopation, de ce qui est déjà sorti. Enfin, je sais pas si c'était ta question d'après.
Oui. Voilà. Allez, on y va.
De ce qui est déjà sorti, un titre que j'adore qui s'appelle She Thought About Killing Me, qui était sorti chez Enlace Records c'est en 2023, donc il y a 3 ans maintenant. C'est mon premier EP, entier en tout cas. Et ce titre là est vraiment. Il y a une grosse vague d'émotions en fait, c'est une espèce de synthé. Enfin, une suite d'accords qui t'emmène vers le plus haut et puis qui en fait redescend, mais la sonorité fait que ça monte toujours un peu. Et du coup, ouais, c'est vraiment un titre que j'adore parce qu'il a de l'histoire, il a du fond et il raconte vraiment quelque chose. Et surtout, en fait, c'est le titre sur lequel je me suis. Enfin, à l'époque, je m'étais le plus arraché, quoi. En essayant vraiment de me prendre la tête, de pousser les choses dessus, quoi.
T'as toujours des liens avec Enlace Records, avec ces gens-là?
Oui. Joe, on s'appelle assez régulièrement, on se parle toujours. Je vois aussi assez régulièrement Pierre, t'as vu. Anne, on se voit de temps en temps aussi. Alvar, on se croise aussi. Enfin, toute la team, quoi. Mm-hmm. On a toujours des liens, ouais, pas de soucis. Tout va bien.
Je voulais revenir rapidement sur la composition de tes musiques. T'as pas mal évoqué la narration, qui semble être vraiment important pour toi, mais j'imagine qu'il y a aussi un aspect dansant.
Bien sûr.
Et est-ce que donc, quand tu composes, tu penses à la réception corporelle du public?
Alors, c'est une très bonne question. C'est un peu mon point de difficulté en ce moment. C'est que j'ai fait des choses qui sont très intenses, qui sont très denses, et en fait, là, j'ai tendance à revenir en arrière. Et justement à essayer de simplifier mon son. C'est-à-dire que avant, si tu veux, je pensais que au plus tu rajoutais de trucs, au plus c'était stylé, au plus ça avait de sens. La vérité, c'est que c'est pas le cas. Donc là, je suis dans une période où j'essaie de justement enlever des couches pour garder un sens primaire et justement faire en sorte de libérer de l'espace pour la danse. Parce que les musiques club, en fait, on va pas se mentir, c'est des choses qui sont très très simples. Et généralement, t'as une basse, un kick, un gros synthé et des éléments de batterie, quoi. Chez moi, il n'y a pas ça, en fait. C'est une production, elle peut faire 70-80 pistes. C'est énorme.
Ah ouais.
Ouais, c'est énorme.
Effectivement.
Voilà.
Tu t'y perds pas.
Le prince. Le prince de la musique électro.
Bah, je m'y perds pas. Là, tu vois, anecdotique, mais quand j'ai commencé à faire ce live, j'ai un ordinateur qui est pourtant une machine de guerre. Et là, mon live, du coup, 3.0, donc celui sur lequel j'ai travaillé, là, j'ai additionné tous mes projets. Et en fait, 3 projets par 3 projets, ouais, j'étais. J'étais à 300 pistes, quoi. Donc j'ai dû faire du ménage et du coup tu vires des trucs et effectivement tu te rends compte que bah il y a des pistes qui servent à rien et ça c'est des choses qui vont encombrer déjà l'auditeur et qui vont le perdre par rapport à la danse. Effectivement, parce que comme je disais, la musique club c'est rapide, c'est tracé, il faut un sens assez direct et si tu l'as pas, bah en fait ça se danse moins. Voilà, donc oui j'essaye. J'essaye.
Est-ce que ça rentre dans une volonté d'élargir ton public ou c'est vraiment pour rendre service aux danseurs
Non, je dirais que c'est un peu des deux. Après, toi tu parles de danse, type contemporaine ou
Non, en club, ça rentre dans ma question, ouais.
Ouais, si, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux parce que, mine de rien, si tu veux que le son soit passé, il faut que ça puisse être quand même simple parce qu'il faut que ce soit plus DJ-like, tu vois, si tu veux, sans pour autant être formaté sur les mêmes normes. Par exemple, je sais qu'en hard techno, par exemple, c'est toujours les mêmes patterns qui reviennent, tu vois. En techno, ça l'est un peu moins. Dans l'EDM, c'est partout pareil. Dans l'EBM aussi, nativement, ça l'est aussi. Enfin, c'est dans la house aussi, en fait, c'est des codes, c'est des modèles. Et moi j'essaie de me coller à ça sans forcément trop s'y coller pour justement créer un truc différent mais qui rappelle quand même aux danseurs que bah, ça peut se danser. Voilà, simplement.
Et en live, tu dirais que t'es plutôt dans une bulle ou tu vas vraiment aller dialoguer avec la foule?
Question très compliquée. En live, sur le projet live, pour l'instant, je suis un peu dans ma bulle. Parce que bah déjà, je ne l'ai pas encore tourné. Et la première fois que. Enfin, sauf la première. Et la première, c'est quelque chose qui est. Enfin, je ne l'ai pas mal vécu, mais c'était un peu compliqué pour moi parce que les gens étaient vraiment tout devant et voyaient exactement ce que je faisais. Et du coup, j'avais tendance à me renfermer et à dire il faut que je sois concentré. Donc, je regarde personne. Je mets ma petite casquette comme ça, je regarde personne, je fais ce que je fais et j'essaie de le faire bien. Et puis après, on verra. En set, c'est différent parce que du coup, en fait, le live, si tu veux, fondamentalement, tu peux pas trop le changer. Il est fait, tu vois. Tu peux pas varier du tout au tout. Tu peux pas passer de A à Z, c'est pas possible. Le squelette est là, l'ossature est là. Donc si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, bah t'es un peu niqué, quoi. Tu peux rien faire. Le set, par contre, tu peux tout changer. Tu peux faire des variations comme tu veux, tu peux carrément prendre un chemin différent. Et par exemple, hier au Rock Reel, j'ai testé des trucs que j'aurais pas testé si j'avais pas eu de public, par exemple sur un enregistrement de podcast ou de radio, parce que t'as une réception. Et du coup, là, tu communiques. Et effectivement, moi, je communique beaucoup par rapport à ça. Je regarde beaucoup les gens, voir comment ça danse, quelles sont les réactions. À un moment, j'ai failli changer carrément de giron hier soir, parce qu'il y avait une meuf en face de moi qui m'a regardé en mode. Ouais, il a passé Vitalik, quoi. Voilà. Sauf qu'en fait, le reste de la soirée, c'était deux meufs qui s'appellent Amber Bros et Marou. Je sais pas si ça vous parle. C'est des meufs bien connues de Belgique. Et c'est de la hard techno, genre, bien tranché, quoi. Et du coup, en fait, il se trouve que bah, une partie publique était venue pour ça. C'est normal, moi j'étais en ouverture, donc voilà, ils étaient venus aussi pour ça. Et j'ai vu quelques têtes à un moment, enfin ouais, vas-y, c'est bon, là. On peut passer au-dessus de 145 là, c'est possible ou. Ok, 22h, tu vois, passer au-dessus de 45 à 22h. Et du coup, j'ai failli me dire, waouh, mais attends, mais ce que je fais, ça plaît pas en fait. Et non, bah juste tu changes de côté et tu vois tous les jeux, vas-y, mec, c'est la balle, vas-y, continue. Et du coup, ça te rassure. Donc c'est pour ça, communiquer avec le public, c'est important, voir un peu la réception. Là, c'était un exemple illustré. Voilà.
Du coup, dans la partie live, c'est vraiment pas possible un peu d'improviser, de tester des choses. T'es vraiment, tu suis toutes tes productions telles que tu les as faites, ou alors tu peux te laisser une certaine flexibilité?
Non, il y a une flexibilité, mais c'est 70% est déjà fait, si tu veux. 70% est déjà fait parce que déjà ça t'évite un peu de te planter quand même. Aussi le fait que si tu dois vraiment gérer tout ce que t'as fait en prod en live, déjà il te faut 4 gars, c'est sûr. Entre une drum machine à gérer, faire les variations de ces drum machines, tes synthés à gérer, faire varier tes synthés, les jouer en direct et tout, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Et en fait tous les lives se font comme ça, c'est que t'as un squelette, tu vois, déjà. Par exemple, t'as des pistes MIDI qui partent toutes seules. Donc, c'est-à-dire que t'as des parties synthés qui partent toutes seules, donc tu les joues pas, par contre tu les modifies en live. Donc tu peux les jouer, tu peux rajouter des notes, tu peux en enlever, ou tu peux en refaire par-dessus, mais fondamentalement tu peux pas tout recommencer de A à Z. Ou alors si tu le fais, il y a des gars qui le font, hein, mais c'est des virtuoses, des instrumentistes électroniques, en fait. C'est ça en fait, hein. Des Appletonistes ou des drum machinistes, tu vois, ou des
Aphex Twin ou des Aphex Twinistes.
Bah voilà, mais c'est des génies ces mecs-là. Même, enfin, mon idole qui est Geza Feldstein, même ça c'est prévu. Tu vois, c'est des boucles qui sont pré-préparées. Il y a que Justice en fait qui a trouvé le moyen de se dire, nous on monte sur scène, on a décidé juste avant ce qu'on allait faire. Ouais, là c'est chaud. Mais les gens qui font ça, c'est des groupes acoustiques normalement. C'est des mecs qui se disent, on va faire une tracklist, on a pensé à la tracklist les gars, on monte sur scène dans 30 minutes. Vas-y, on va l'écrire vite fait. Justice fait pareil, mais c'est les seuls que je connaisse. En vrai de vrai. Sinon c'est quand même très casse-gueule à gérer. Très très casse-gueule, c'est sûr.
Tu parles de Geza Feldstein, de Justice. Quelles sont justement tes inspirations dans ton univers musical?
Tes teachers.
Mes teachers. Et bien justement, Geza Feldstein, c'est une grosse partie. En fait, j'ai découvert ce que je fais grâce à lui. Donc c'est vraiment une influence majeure. Après, il y a eu la découverte de tout ce qui est le label Zone, donc qui est quand même son label avec les autres artistes, etc. Et c'est arrivé en même temps que la Blog House. Je sais pas, enfin c'est un... C'est un terme qu'on a un peu défini là. Enfin, non, mais moi je connaissais pas l'existence en fait. Mais c'est toute cette musique électronique de 2005 à 2010-12, justement, centralisée un peu à Paris. Avec le Social Club, avec le Silencio, avec le Wanderlust, tout ça, le Paris-Paris. Ces clubs-là qui sont affiliés musique électronique, un peu de club. Et c'était l'époque du coup de Justice. De Sébastien, de Geza Feldstein, de Brodinski, de Bromance, de The Hacker et tout. Et ça a créé un peu ce truc-là. Et j'étais vachement influencé par ça. Et pendant longtemps, j'ai pas vraiment retrouvé d'équivalent parce que le mouvement est mort plus ou moins en 2012, enfin en 2012-2013, et le son s'est arrêté. Donc je dirais la Blog House, Geza Feldstein. J'ai beaucoup été influencé aussi dans ma jeunesse par. La soul et la funk. Du coup, j'ai pris un peu des racines du groove là-dedans. Et après, nouvellement, si tu veux, je suis en train de retourner vers une techno, je dirais, fin 80, entre 85 et 95, avec des gars du style Thomas Ekman. Drexia aussi qui est vraiment de l'électro Détroit bien comme il faut.
Un peu retour aux sources plutôt américain, plutôt justement les ouais, choses américaines.
Ouais. Exactement, exactement. Et même là, Juan en fait, hier.
Les Juan Atkins ou ce genre de.
Voilà. Mais ça fait partie du chemin que j'exprimais avant sur retrouver un peu l'essentiel du truc. Retrouver des prods qui soient plus épurés. Apprendre à mieux faire en fait, c'est là que vient le recul. Et en fait là je me rends compte de plus en plus que effectivement au plus les prods sont simples, au plus elles ont du sens et au plus elles sont percutantes. Et du coup au mieux c'est en fait déjà pour les danseurs, ensuite pour toi et aussi pour les jouer. Parce que y a rien de pire qu'un DJ set qui soit hyper encombré ou t'es des pistes qui qui sonne de partout et en fait tu t'y retrouves même pas quoi. En vrai, ouais. Et l'auditeur s'y retrouve moins aussi. Donc voilà, ces influences là. Et après je tire pas mon influence que du son en fait. Il y a beaucoup de choses qui me touchent qui sont des moments de vie, des choses que je traverse, des choses que je vois. Donc, ça peut être des films, des choses que je lis aussi. Voilà, un peu tout ça, un peu ma vie de tous les jours, quoi. Et puis à un moment, ça. Waouh! Il y a un truc qui sort. Et puis du coup, je vais le faire. Enfin, je vais essayer. Et puis si j'y arrive, c'est bien. Si j'y arrive pas, généralement, je me prends la tête. Donc du coup, je finis par y arriver. Ouais, c'est une influence un peu globale, mais ouais, les maîtres du genre, quoi. The Hacker aussi beaucoup. Robotini. Globalement, un peu tout ça, quoi.
Tu parlais de set. Quel est le meilleur moment pour toi dans un set? Qu'est-ce que tu préfères en soirée, que ce soit en live ou en DJ set? Quel est le moment où tu te sens le mieux?
Le moment où je me sens le mieux, c'est... À la fin, parce que... Si t'as bien bossé, en fait, à la fin, les gens, la musique s'arrête et font... Tu nous as fait quoi là en fait?
Il y a un applause général, voilà, c'est vraiment ça. Ce moment-là, ce retour de public du coup.
Ouais, c'est ça. Après, c'est un peu à double tranchant, mais si t'as pas bien bossé, tu fais. Bon, les mecs, c'est fini, allez, suivant. Mais si t'as bien bossé, c'est vraiment cool en fait, parce que les gens déjà t'applaudissent et puis ils viennent te voir et puis te demandent comment ça va et tout, comment t'as fait ça, c'est quoi ce son et tout, vas-y, donne-moi le truc et tout. Ça, c'est bien. Un autre moment que j'adore, parce qu'en fait dans un set ou dans un live, il y a toujours un peu une petite baisse de régime, tu vois. Il y a un petit côté démotivation, enfin pas démotivation, mais tu vois, tu rentres dans le truc, surtout sur des sets longs de plus de 2 heures.
Ça reste un exercice, ouais, qui est long, voilà. Qui demande de la concentration. Effectivement, tu peux pas rester concentré à la même intensité pendant 2 heures.
Voilà. Et donc il y a un moment, tu vois, toujours il y a une petite baisse un peu de régime. Et hier soir, ça m'est arrivé. Je crois au bout d'une heure et demie. En plus, les gens, enfin la salle commençait à vraiment bien se remplir. Et moi, ça tombait pile au même moment, donc comme ça. Et à un moment, tu croises des regards, tu vois qu'il y a des gens qui te font. Vas-y là. Et tu fais, vas-y, ok, c'est bon, faut y aller. Et là, du coup, tu remontes, tu vois, tu viens remonter depuis la fosse des Mariannes, tu vois, et hop, c'est reparti. Et là, du coup, tu y vas. Et ça, ces moments-là sont cool. Parce que cette remontée fulgurante où là t'as plein d'idées.
Ouais, c'est vraiment le partage d'énergie en fait. Toi t'es derrière, tu proposes quelque chose et le public est réceptif et donc il te redonne cette force là que tu donnes. Justement, quelle est l'intention derrière ton projet? Comment t'as commencé à faire de la musique? Quelles étaient... Pourquoi t'as voulu faire ça finalement? Est-ce que par amour du son ou justement c'est ce côté de partage avec le public ou ça peut être plein de choses finalement?
Je pense que c'est déjà par amour de la musique, ça c'est sûr. Pourquoi j'ai vraiment commencé à faire du son? En fait, quand j'étais jeune, il m'est arrivé un truc et j'ai eu des grosses difficultés à m'exprimer. Donc du coup, j'avais du mal à sortir ce que je ressentais et du coup, généralement, j'ai gardé pour moi. Il y a des gens qui passent du métal, dont certains que je connais. Bref. Et du coup, j'avais du mal. Enfin, je gardais tout pour moi. Et ce qui fait qu'à un moment, on peut pas fondamentalement tout garder pour soi. Et déjà, quand c'est des choses hyper importantes, il faut quand même les sortir. Mais alors, en plus de ça, quand t'es déjà bloqué au niveau du quotidien, en fait, c'est l'enfer. Donc, tu gardes vraiment, vraiment, vraiment tout pour toi, quoi. Et la moindre frustration, etc., tu la gardes pour toi. Quand t'es en colère, tu peux même pas le dire. Fin. Et du coup, au bout d'un moment, quand j'ai cherché un moyen de m'exprimer, donc j'ai commencé à faire de la guitare, mes parents m'ont inscrit au solfège. J'ai fait 3 ans de solfège, j'ai jamais fait d'instrument. Vraiment, le truc à la con, quoi. Mais bon.
3 ans de solfège pour pas jouer d'instrument, effectivement. Enfin, ouais. Tu fais du live.
Ça s'appelle une punition, ça.
ouais, vraiment. Mais maintenant, je vois à quel point ça sert. Hein,
Tu prends mesure de l'utilité en pratiquant.
Ouais. Complètement. Et du coup, ouais, c'est vraiment commencé la musique pour retrouver un moyen d'expression. Et au final, je l'ai retrouvé. Et après, ça va aussi dans la découverte des styles. Donc je suis passé par la musique électronique type Justice, etc. Donc vraiment Bloghouse à cette époque où j'ai découvert la musique électronique. Et je me suis dit, ouais putain, c'est cool, en fait ça bouge et tout. Et après j'ai trouvé Gesäffelstein, j'ai fait, ouais là c'est vraiment le truc qui me manquait, du côté percutant et un peu froid. Et après j'ai découvert la techno. Et la techno industrielle, c'est vraiment le côté percutant de Geza et le côté violent, en fait, vraiment, de la techno industrielle. Et là, j'ai fait, bah en fait, c'est les deux qui me vont, quoi. C'est vraiment les deux qui me vont. Et du coup, ah oui, c'est moi qui ai l'arsène, en fait, depuis tout à l'heure. Désolé. Et du coup, ouais, je suis obligé de parler comme ça. Et du coup, ouais, bah c'est vraiment différents modes d'expression et différents... je ne saurais pas trop comment l'exprimer en fait, mais différentes raisons qui m'ont poussé à faire du son, quoi. Tout ça au global. Il n'y a pas une motivation.
En général, c'est pas exprès, une motivation unique. C'est un ouais. mélange de choses, effectivement.
Mais s'il fallait retenir ça, ouais, c'est vraiment le manque de moyens d'expression, on va dire. Et puis c'est une deuxième voie en fait que j'ai eue et un moyen de m'exprimer plus simplement. Enfin, qui, à l'époque, était plus simple, quoi.
Et où est-ce qu'on peut t'entendre en ce moment ? Est-ce que tu te produis à certains endroits ?
Partout ! Non, partout. C'est faux. Et bah, hier soir, vous avez loupé une super date au Rockrill.
Ah, mais il y avait l'after party ici.
Eh bah oui, bah, je sais. Sinon, je joue de temps en temps à Paris au Silencio.
T'es résident là-bas, si je me trompe pas.
C'est ça. Enfin, je suis résident d'une soirée qui se fait au Silencio, une soirée qui s'appelle la Bizarre Love Triangle. Donc voilà, Paris, de temps en temps. Sinon, j'ai des podcasts qui sortent. J'en ai un qui sort la semaine prochaine sur une chaîne qui s'appelle Addicted to Bass. J'en ai un qui sort en mai sur Substantive Techno. Je bosse sur ma curation d'événements qui s'appelle Shockwave. J'en ai fait une en janvier à la Griffe. Je devrais en faire une dans pas trop longtemps, en juin ou juillet, dans un autre lieu à Lille. C'est pas encore fait, c'est pas encore dealé. Et après, sinon, ce sera normalement en septembre. Voilà. Donc, s'il y a des bookers qui sont là, je suis libre.
Et puis, une implantation locale
c'est ça.
Qui se confirme aussi, quoi.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça. En fait, j'aime bien m'exporter aussi. Parce que ça permet aussi de voir d'autres choses, d'être confronté à d'autres gens et de confronter aussi d'autres idées et de discuter par rapport à ça, d'échanger. En fait, ça me plaît d'aller bosser ailleurs, je trouve. Enfin, je pense. En fait, même pas, je pense que ça me plaît, quoi.
Eh ben, hâte de découvrir ton nouvel EP, alors.
Eh ben oui, carrément. Alors, un EP qui est fini, qui va sortir, qui s'appelle React. Qui va sortir sur le label Radiation normalement, j'ai pas encore la date de sortie mais ça devrait être d'ici septembre au maximum, avec un remix d'un mec qui s'appelle Van Kristen qui est toujours un ponte dans la scène de l'EBM Electro Clash, un autre remix d'Art Patronique qui est le DA du label, et après ça il y a encore un autre EP qui est du coup celui qui est prêt, mais on sait pas trop. C'est là où il y a cette track Syncopation dont je parlais tout à l'heure. Et là, qui devrait sortir, on sait pas. Je suis en discussion avec... je sais pas si je peux le dire.
Avec quelqu'un de mystérieux, quelqu'un qui te veut du bien, a priori.
Quelqu'un qui me veut du bien. Son nom veut dire un peu tout l'inverse. Il s'appelle littéralement DJ Enfer.
Ah non !
Ah si !
Tu deals avec le grand maître ?
Je deal avec le grand maître.
Ah non, c'est beau.
Okay. Voilà. C'est très loin d'être confirmé. C'est pour D'accord. ça que pour l'instant, il y a une seule track qui lui plaît sur les trois. Et c'est pour ça qu'il faut que je retaffe. Mais ouais. On dit avec le grand maître.
Et ben on te souhaite tout le bien du monde pour continuer ta route avec lui. Hein, appelons-le lui.
Appelons-le lui. Exactement.
Eh bien écoute, Transgression, on arrive à la fin de cette interview. Merci à toi d'être venu. Et peut-être que tu veux nous passer quelques sons, quelques productions. Tu as les platines à disposition.
Oui.
Et si tu le souhaites, elles sont à toi.
Eh ben magnifique. Je vais m'y mettre un petit peu. Je vais passer ça.
Trop bien.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci à toi.
C'était vachement bien.
Merci.